jase dans le pit stop et dans le retour.
C'est vendredi demain! Les actualités présentées par FS Prêt. Personne n'est à l'abri des imprévus. Pour un prêt d'urgence sans enquête de crédit ou un prêt à débourser le jour même, fsprêt.com.
Boulevard 102.1, la radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas.
Wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bandes préférées.
Et quelque chose à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puis en même temps, je suis comme un peu gêné, parce que d'habitude, je suis le seul animateur de ce show-là, puis là, ben, je dois avoir été gentil aujourd'hui, puisque Pascale CV, qui est mon excellente collaboratrice sur l'heure du midi, a dit « Bon, t'as peut-être été gentil, là, je vais être là avec toi à soir pour ton Marceau soir. » Je me suis dit « Je suis content. » Là, j'ai regardé l'invité que j'avais ce soir, et j'ai compris pourquoi Pascal voulait être avec nous autres. La mère de mes enfants capote littéralement sur l'invité que je vais vous présenter. Son nom, vous l'avez certainement entendu quelque part, Alison Van Rassel, l'épicurieuse. Salut Alison!
Salut Yannick, allô Pascal!
Salut Pascal!
Salut, moi j'étais un peu ratoureuse, je pense, sur celle-là.
Là, t'es en train de réaliser un rêve, quoi, là?
Ben, c'est un petit fantasme d'entrevue. C'est vraiment quelqu'un que j'admire pour son travail, puis dans la démarche qui l'a amenée où elle est maintenant.
Ah, Alison, parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu as réussi à rentrer dans le quotidien, autant par la radio que par la télé?
Que le web aussi. Que le web aussi. Principalement, parce que c'est ce qui m'a frayé un chemin, finalement. C'est ce qui a réussi à peut-être me faire connaître un peu. Pascal, merci d'abord. Je suis touchée par ce que tu dis là, parce que j'ai pas entendu ça souvent dans ma vie. Puis je pense que ça prend juste une réelle épicurieuse pour comprendre le travail qu'il y a derrière, puis quelqu'un qui travaille dans le monde des communications aussi pour comprendre.
Ouais.
Merci de m'inviter, Yannick, sincèrement. Je trouve ça cool de pouvoir parler aux épicurieux qui écoutent ton show, puis les gens qui aiment bien manger, puis avoir du plaisir. Puis c'est exactement ça.
Ouais.
En fait, moi, je suis journaliste de formation. Je m'en doute.
T'as étudié à quel endroit?
J'ai étudié à Québec, en anglais.
Ah ouais?
je suis une fausse francophone, en fait. Je suis anglophone. En fait, je suis bilingue. Là, on va mettre les
cartes. Je suis américaine, canadienne, québécoise, anglophone.
C'est citoyenne du monde. Du nord de l'Ontario, du nord de l'Amérique. Bref, j'ai fait mes études en anglais à Québec et j'ai étudié à l'Université Laval. Mais lorsque je suis arrivée à l'Université Laval, moi, je suis une grande fan de radio. J'ai toujours écouté énormément de radio. Et c'est clair que dans ma vie, un jour, j'allais faire de la radio. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un médium qui est ultra personnel. Il y a place à l'imagination. Puis je ne savais pas qu'un jour, on allait se faire spoon-feeder tellement d'images qu'on allait revenir à ce médium-là qui est si personnel, si sincère, si vrai. Et donc, j'ai tenté ma chance avec Chiz 94.3, qui est la radio de l'Université Laval, et j'ai animé la toute première émission en anglais hors CBC de l'histoire du Québec.
T'avais jamais fait ça de ta vie?
Non, pas tout.
T'as dû être terrorisé.
Le 19 ans, mettons, à l'université.
Ça fait plus de 20 ans de
non,
ça.
Non, à l'âge où ça a commencé.
Oui, absolument. Exactement. En 2000 pile.
T'as dû être terrorisé?
Oui, mais j'étais tellement drive. Tu sais, j'avais tellement une drive forte.
Ouais.
Je voulais tellement réussir à faire ça. J'étais tellement fascinée. Tu sais, ayant étudié en anglais à Québec, j'ai eu la chance de visiter les studios de CBC à plusieurs reprises parce que je faisais du théâtre, j'étais impliquée et j'ai eu des opportunités de rencontrer la personne qui m'a le plus motivée dans ma carrière, Jackie Chernin. Jackie Chernin, pour moi, c'est une des plus grandes animatrices radio. Elle n'anime plus aujourd'hui, mais c'est elle qui m'a vraiment donné cette piqûre-là. Et donc, c'est ça, je me suis dit, je veux tellement... J'étais tellement motivée. Oui, terrorisée à la fois, mais passionnée, curieuse. Puis j'y allais d'instinct. Je me suis dit, je me pitche là-dedans, let's go, on va apprendre sur le tas. Puis j'ai vraiment appris sur le tas, à un point tel qu'après, Je suis arrivée pour mon premier emploi en journalisme. J'ai quitté Québec. Je me suis dit, si je veux avancer, si je veux aller vraiment plus loin que tout le monde, je dois aller travailler ailleurs. Je suis allée travailler à Toronto. J'ai été engagée pour la plus grande publication canadienne qui s'appelle le Daily Commercial News et j'ai tout appris de mon métier là.
Pas de syndrome de l'imposteur à un moment donné là-dedans?
Il est arrivé beaucoup plus loin.
Ah oui?
Ah oui, à partir du moment où on m'a donné le titre de critique culinaire, on me l'a donné, j'ai jamais voulu ce titre-là. On m'a le donné quand j'ai fondé la toute première plateforme numérique sur le site web. C'est pour ça que je te dis le web de Radio-Canada, ouais. Ça vaut le détour, où je racontais des histoires de mes expériences en lien avec l'alimentation, que ce soit des expériences en restaurant, que ce soit les rencontres avec des artisans. C'est ce qui, moi, pour revenir aux premières conversations qu'on a eues il y a quelques instants, c'est ça, moi, qui m'a donné mon envolée totale.
Mais quand tu as commencé dans le journalisme, c'était pas la nourriture, c'était pas l'aspect culinaire. Qu'est-ce que tu faisais?
Pas en tout. J'étais journaliste. Je faisais. Ben, d'abord, j'ai commencé avec le Daily Commercial News, donc je couvrais l'univers de la construction. Okay. Pour moi.
Mais c'est quand même niché, ouais, ça aussi. Ouais, là.
Elle regardait ce que les gars mangeaient. Elle disait, bah, c'est une sandwich au jambon aujourd'hui.
Tu ris, mais ça, c'est un de mes rêves, faire un reportage de qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à lunch. Là.
Ah,
clairement.
Non, mais ça parle culturellement. Mais je te laisse parler.
Non, mais d'un point de vue culturel, absolument, tout à fait. Il n'y a rien de plus saisissant qu'un repas pour comprendre d'où tu viens, tes valeurs. Et comment, toi, tu t'exprimes dans ta culture.
Même ton sac à lunch, c'est quoi?
Donc là, t'étais avec les gars de construction.
Fait que j'étais avec les gars de construction. Non, mais blague à part. Daily Commercial News, c'est un journal qui traite de l'industrie de la construction, ouais, sous toutes sortes d'angles. Et moi, je couvrais la province du Québec à Toronto. Et donc, je jasais avec des architectes, avec des entrepreneurs généraux, avec des gens qui prévoyaient faire des très grands projets de construction pour la majorité. Puis c'est comme ça que j'apprenais à, un, faire des entrevues, à rédiger des articles. Tu sais, ça a vraiment été mon école. Moi, j'ai quitté. Tu sais, j'ai fait mes études en enseignement. Ouais. Mon but, c'était d'être prof en anglais. Puis à force de mettre trop plus d'énergie dans la préparation de mes émissions de radio à Chiz que dans mes cours, parce que j'enseignais aussi au cégep de Lévis-Lauzon en même temps, bien, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose là. Donc, je suis retournée faire mon cours en journalisme. À un point tel que je ne l'ai pas fini parce que je voulais tout de suite être sur le terrain. Moi, je suis une fille qui veut comprendre. Arrêtez de me mettre derrière un écran d'ordinateur puis m'enseigner des livres à plus finir. Permettez-moi de le vivre pour vrai. Puis je pense que c'est ça qui m'a toujours motivée dans tout ce que j'ai fait. Fait que quand je suis arrivée à Toronto, j'étais seule. Oui, j'avais des amis de la famille, mais j'avais pas d'amis autour de moi. J'avais des gens beaucoup plus âgés. Puis j'avais mon véhicule, puis j'étais comme, « Hey, attends, je suis à Toronto. » Il faut que j'aille explorer la ville. Et là, je suis tombée en amour avec la culture culinaire de la ville de Toronto. Ça, c'est au début, là, on retourne au début 2003. C'est l'explosion de tout ce qui est justement la fierté de mettre la culture dans l'assiette, mais d'un point de vue canadien. Moi, je suis là, la petite Québécoise francophone, parce que c'était clair que j'avais une étiquette de Québécoise d'en face.
Malgré tout.
Malgré que j'ai étudié en anglais toute ma vie, mon père est anglophone. Tu sais, tout le côté de mon père, c'est famille anglophone, mais du côté de ma mère, c'est Québécois pur laine. Puis malgré que j'avais une bonne compréhension de ces deux cultures-là, j'étais toujours étiquetée Québécoise parce que il y avait des mots que je disais pas. Dukes of Hazzard.
Hazzard.
C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, quand je disais des petites affaires de même, c'est dans le temps que le film est sorti, donc les boys avec qui je travaillais, mais ça me taquinait avec ça, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, OK, je suis la petite Québécoise, c'est parfait. Mais le soir, le week-end, je faisais du bénévolat au TD Jazz Fest de Toronto, au Beaches Jazz Festival. J'allais dans tous les festivals de musique possibles, j'allais faire du bénévolat. Et là, je voyais la bouffe qui était préparée, j'avais un contact direct avec la scène culturelle et je visitais par le fait même tous les petits bouis-bouis, les restaurants. J'avais pas le moyen d'aller dans un grand restaurant, là. Et c'est là où j'ai fait « Wow, c'est donc ben hot! » Puis je me suis mise à lire un peu plus sur le sujet, sans vraiment m'y attarder parce que dans ma tête, c'était pas possible de gagner sa vie à parler de bouffe. C'était vraiment pas possible.
Pourtant, tout le monde s'alimente 3 fois par jour le plus possible. Ça fait tellement partie de notre quotidien.
Ouais.
T'as raison, mais tu sais pourquoi j'y pensais pas? Parce qu'on a toujours intellectualisé l'alimentation. On a toujours mis ça entre les mains des nutritionnistes et des chefs et des cardiologues. Fait que moi, je me disais, hey, je suis juste une journaliste, là. Je suis pas quelqu'un qui a une vision intellectuelle d'alimentation. Je pourrais pas faire ça. Oublie ça. Fait que de fil en aiguille, je retourne à Montréal, puis je suis tombée malade. Pour faire une histoire très, très courte, j'ai eu plusieurs opérations à la hanche. Et j'ai eu une opération à Toronto, puis je me suis dit, OK, bien là, peut-être que je joue un peu trop avec ma vie, loin de ma famille et tout. Je vais retourner. Moi, mon grand rêve d'envie, c'est de faire de la radio à Chaume. J'ai envoyé un démo francophone. J'ai été engagée à Chaume. J'ai été animatrice à Chaume pendant 5 ans. Et c'est là où, à force de voir comment ce monde de la radio privée fonctionnait, parce que j'avais jamais mis les pattes ou ouvert un micro dans un contexte de radio privée à ce moment-là. Et c'est là où j'ai compris que si tu te formais une personnalité, si tu étais vrai, il y avait comme un following qui venait avec ça. Il y avait comme un... Tu sais, il y avait une relation qui se tissait. Puis on est avant les réseaux sociaux, là. Mais Facebook est arrivé au moment où j'étais là. Et j'ai commencé à réaliser des émissions à CJD, j'ai commencé à faire la circulation aussi, faire plein de choses. Puis j'ai comme nourri un peu cette curiosité-là. Puis à force d'essayer de faire plein de choses d'un bord et l'autre, de fil en aiguille, puis là, je vais sauter quelques temps. Je suis revenue à Québec, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Tu sais, la crise de la trentaine. Là, j'ai un beau bagage. J'ai vraiment, je pense, une curiosité insatiable. Qu'est-ce que je veux faire?
En passant, Pascal arrive à 30 ans bientôt.
Non, Pascal l'a eu, puis ouais, la crise de la trentaine, elle l'a fait.
Je pense qu'elle est vraie pour
elle
plusieurs
femmes.
Elle est
sincère sur où est-ce qu'on se réoriente. Mais est-ce que tu l'as, le syndrome d'imposteur qui a cogné à la porte? Ou?
Je pense que depuis que je suis pigiste, ça va faire 2 ans maintenant, bientôt 2 ans que je suis pigiste, il est parti, mon syndrome de l'imposteur.
Il a quitté la pièce.
Oui, mais ça s'est fait sans trop que je me pose la question. C'est fait naturellement, à force de prendre des contrats, à force peut-être de voir des gens me faire confiance, venir vers moi, entendre leur message. Puis là, je me dis, « Ah, ils font confiance à moi? OK, bien là, écoute, je pense que je suis sur la bonne voie. » OK, c'est vrai. Hey, t'sais-tu quoi? J'ai toujours été vraie. J'ai toujours été respectueuse. J'ai jamais poussé à avoir la nouvelle à tout prix. Moi, là, être première sur une nouvelle, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a drivée comme journaliste. J'ai toujours voulu raconter les histoires. J'ai toujours été... Je suis très CBC, hein? Ça a été mon école pendant plusieurs années. J'étais là pendant plus de 10 ans.
C'est marquant, l'école d'où on vient médiatiquement parlant, veut pas dans ce qu'on devient comme personnalité, peut-être médiatique, justement.
Oui, puis je pense que c'est la gestion aussi qui te marque beaucoup. Puis je pense que j'ai pas besoin de parler de l'expérience de ce qui s'est passé avec Radio-Canada Québec aussi. Moi, j'ai gravité dans cet univers-là. J'ai vécu ça. Et il y a beaucoup de mes collègues que je revois aujourd'hui qui sont comme « Ah, mais t'as persévéré, t'es resté là. » Oui, parce que j'y croyais tellement en ce que je faisais, tu sais. Qui va raconter l'histoire des gens qui nous nourrissent si ce n'est pas des contenus sponsorisés ou de la publicité? Sincèrement, là, j'apprécie énormément le travail que vous faites, mais dans le contexte de radio privée, si on parle de bouffe, c'est parce que, oh, par hasard, ça vient sur le sujet puis on vient vraiment chercher les passions des gens ou c'est une pub. C'est ça, la réalité. Puis moi, je me suis dit, ben, attends un peu, là. C'est pas vrai que on va. C'est la fibre journalistique qui embarque. C'est pas vrai qu'on va juste parler de bouffe comme étant une publicité. Tu l'as dit, on mange tous 3 fois par jour minimum. Si on s'entraîne, on va manger jusqu'à 6 fois. Puis si on a des problèmes de santé, on va peut-être manger un peu moins, mais on va toujours manger pareil. Fait que moi, ayant passé, puis là, je fais un super saut là, pour vous expliquer concrètement ma raison d'être. Tous les étés, je les passais chez mes grands-parents. Mes grands-parents vivaient un peu en autarcie, c'était des agriculteurs. Mon grand-père avait le plus beau jardin de Saint-Elzéar de Témiscouata dans le bas du fleuve. Ma grand-mère était céramiste. Et elle cuisinait les légumes, les poissons, la viande de mon grand-père.
Il était pratiquement autonome.
D'où vivre en autarcie. C'était quasiment tout ce qu'ils mangeaient venait de leur terre immédiate. Et ça, quand t'es jeune, tu comprends pas ça. Mais à un moment donné, en vieillissant, à Toronto, par exemple, je remarquais que j'étais capable de déceler la différence dans un aliment, dans la qualité d'un aliment. Par exemple, un petit pois, une carotte, un légume. Un légume qui a passé du temps dans un entrepôt, je ne sais où, tu peux facilement déceler la différence. Et ça, ah, c'est une question d'éducation de palais, point. That's it.
Mais c'est un problème, Yannick, à un moment donné, là, quand tu y as goûté et tu l'as connu, tu viens lourd.
Ouais. Revenir à l'autre produit congelé, c'est un petit peu plus difficile.
Parce que lui, il m'agace tout le temps. Là. Il dit « je suis la petite princesse de la restauration », mais c'est pas dans une histoire d'aller dans les plus grands restaurants, mais c'est dans le goût.
Ouais. Mm. Toronto, moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu peux aller manger à tous les drapeaux de la planète.
Tu voyages par la fourchette.
Tu sais, moi, l'Indien, la nourriture indienne, c'est goûteux, c'est épicé, j'adore ça, juste à y penser, j'ai le goût d'aller me chercher de l'Indien ce
mais
soir.
Mais c'est clair, tu ne restes pas indifférent.
Ouais.
Puis, tu sais, on va faire une parenthèse là-dessus, la mémoire gustative, c'est la mémoire la plus forte au monde. Peu importe ce que vous allez dire, là, toutes les sciences, toutes les études qui ont été faites sur le sujet, quand tu manges quelque chose, puis ça a un impact, qu'il soit positif ou négatif, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Fait que moi, ces saveurs-là, ces odeurs-là, ce plaisir-là que j'ai eu, je le retrouvais pas à la maison avec ma mère. Ma mère monoparentale, carriériste, qui a essayé de m'élever avec le mieux qu'elle pouvait à ce moment-là. Je mangeais du Kraft Dinner, je mangeais des... Tu sais, je veux dire, pour elle, c'était pas une priorité parce que ma grand-mère ne voulait pas la laisser rentrer dans la cuisine quand elle était jeune parce que c'était comme, non, c'est ma cuisine, je te prépare à manger, c'est moi qui vais te montrer à quel point je t'aime. Donc, j'ai eu la chance de connaître ces deux grandes... Je veux dire les deux grandes solitudes, tiens, ça fait partie de ma vie. Ces deux contrastes-là en alimentation, ce qui fait que aujourd'hui, je sais faire la différence de par ma bouche. Je peux, puis je dis ça très humblement, mettez-moi n'importe quoi devant la table et je peux vous dire, à yeux fermés, lequel est de meilleure qualité, même si c'est deux côtes de bœuf une à côté de l'autre, je peux vous garantir. Parce que, je sais que c'est difficile à entendre, ça se goûte, cette différence-là. En alimentation, au Québec principalement, on parle d'un prix d'avoir et avant tout. La minute qu'on parle d'un prix, c'est de mauvaise qualité. Je vous le dis tout de suite, là. La seconde que vous avez des spéciaux sur des légumes, vous avez des spéciaux sur des fruits, vous avez des spéciaux sur la viande, combien de temps ça a passé dans l'entrepôt puis ils ont besoin de s'en débarrasser rapidement? Combien de temps ça a été... De quel endroit ça provient d'une part? Est-ce qu'on est capable de tracer cet aliment-là? La traçabilité, c'est ce qui garantit une sécurité alimentaire. Est-ce qu'on peut rentrer dans les cantaloups? Ça a pris 6 mois avant qu'on soit capable de voir où était la source de colis dans le cantaloup qui a empoisonné et tué des centaines de personnes au Canada l'année passée. Là je ne retourne pas dans les années 30. Fait que, tu sais, quand toi, tu baignes dans cette information-là puis tu dis, ben mon doux Seigneur, on va continuer à s'alimenter en fonction d'un prix. On va continuer à mal s'alimenter parce que le prix ne nous donne pas les nutriments dont on a besoin. Et ça, c'est scientifique. C'est pas une chroniqueuse culinaire qui donne une histoire comme ça. Et on va continuer à s'alimenter d'aliments dont on ne connaît pas la provenance. Fait que, à force de baigner là-dedans, puis de faire des reportages, puis de raconter les histoires de par la voix des autres, ben des grandes émissions nationales sont venues vers moi, m'ont dit « Écoute, es-tu capable de faire ce que tu fais en anglais, en français? » J'ai dit « Oui ». Et je me suis, encore une fois, lancée dans un bassin. Je n'avais jamais écrit un texte en français. Jamais. Avant de faire « Ça vaut le détour ». Et je ne l'ai jamais dit à mes gestionnaires.
Alison Van Rassel, quand elle se présente dans un restaurant aujourd'hui, les chefs, est-ce qu'ils ferment le resto en disant ben, « Désolé, madame,
il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place. C'est vide. »
C'est jamais arrivé.
Non!
Il y a une grande chef, Elena Loureiro, à le restaurant Elena à Montréal, elle m'a dit « Alison Van Rassel, tu es la Françoise Keller de la restauration moderne. » Je fais « Tabarouette, dis-moi pas ça. »
Moi, j'ai pas le référent.
Je peux pas vivre. Françoise Keller, elle avait le potentiel, grande chroniqueuse culinaire de Gazette, critique culinaire. Elle avait le potentiel de faire fermer des restaurants. Je me vois pas comme une critique culinaire, encore une fois, et jamais dans ma vie, je voudrais vivre avec l'odieux de faire fermer une business. Je suis une femme d'affaires. Je sais c'est quoi maintenant l'envers de la médaille de la critique, tu sais.
Ouais. Mais être un propriétaire d'entreprise, je te verrais plus comme une arme que je peux utiliser pour justement juger de mes produits que je donne à mes clients, puis pour comment je peux l'améliorer par la suite.
Avec une opinion sincère.
Ouais, tu sais, c'est comme, je regarde, ben, j'ai dit une arme, mais mettons un outil, là. J'ouvre mon coffre à outils, je sors avec Alison Van Rassel, je la fais venir à mon restaurant, elle goûte, puis elle me dit, il y a de l'amélioration à faire là et là. C'est comme ça que je te verrais.
Ben merci. Mais c'est ce que je souhaite aussi. Puis c'est comme ça aussi que je travaille avec les chefs aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, Yannick, on a pris un grand chemin, mais je rentre dans un restaurant, la majorité, tu sais, on ne se le cachera pas. Je fais de la télé, je fais de la radio, je suis sur le web, 100 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, des jeunes, des moins jeunes. C'est clair que les gens me reconnaissent. J'étais dans l'ascenseur tantôt en arrivant. La madame me dit, je m'excuse, mais il faut vraiment que je te le dise. Là. J'aime vraiment ce que tu fais sur TikTok. Je suis comme, hey, c'est une madame de 40 ans et plus qui me suit sur TikTok. Yes! Yes!
Mais, Yannick me fait faire un peu de... J'aimerais ça savoir si c'est ce qu'on conseille aux gens qui vont dans les restaurants, qui ont de la misère à dire leur vraie critique ou à dire leur vrai commentaire parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont insulter, par exemple, en cuisine ou le chef, s'ils ont peut-être des recommandations ou un avis là, bien fixe sur ce qu'ils viennent de manger, goûter.
Un chef qui a moindrement un égo, puis qui a moindrement, puis je dis un égo positif, là, qui a moindrement le désir de s'améliorer, va écouter cette rétroaction-là.
Ils vont aimer?
Moi, je faisais un entrevue avec Marc Vera, un des plus grands chefs de la gastronomie française, le bad boy au chapeau, qui était de passage à Québec. 3 restaurants, triple étoilé Michelin. Il me dit, vous savez, madame, lorsqu'un client me dit que c'est trop salé, ou c'est, je l'écoute. Puis après ça, je me re-questionne. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que moi, je peux m'améliorer dans cette offre-là? Tu sais, la majorité des chefs fument. Viens pas me faire à craindre qu'ils sont capables de tout le temps faire des assiettes parfaites. La majorité des chefs ne sont pas dans leur restaurant. Ils ont des sous-chefs, ils ont d'autres équipes qui sont là pour faire les assiettes. Il faut que tu apprennes à lâcher prise à un moment donné. Cette rétroaction-là dont tu parles, Pascal, elle est nécessaire pour s'assurer que toi, en tant que chef d'entreprise, qui a le désir d'offrir du plaisir dans une assiette à ta clientèle, à tous les jours, tu continues à leur faire plaisir et que tu continues à avoir des clients qui viennent dans ton restaurant. La plus grande réalité maintenant, puis c'est pour ça que je dis que la critique culinaire n'a pas vraiment sa place. Moi, je parle plus d'une conversation autour de l'alimentation. C'est tellement facile de donner son opinion sur toutes sortes de choses. Meilleur exemple que je ne peux pas vous donner, comme je vous dis, moi, je le vis, cet envers. En ce moment, les gens vont sur les réseaux sociaux, vont commenter sur TripAdvisor, sur Google, sur toutes sortes de différentes plateformes, vont utiliser leurs médias sociaux pour le faire. Je ne conseille pas de faire ça tout le temps si on n'a pas moindrement avisé soit les personnes dont on va parler. Moi, première chose, là, j'ose avec les chefs, j'ose avec les serveurs, j'ose avec les cuisiniers, faites-le. Mais il y a quand même des gens qui vont sur les réseaux sociaux puis partagent des commentaires. Ces commentaires-là sont lus par d'autres qui voyagent, par exemple. Bien, éventuellement, nous, on a vécu dernièrement, puis t'sais, le but, c'est pas de me plugger, mais c'est juste pour vous expliquer. J'ai ouvert un petit café sur la rue Saint-Jean. Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans bientôt que c'est ouvert. Et au fil du temps, il y a des gens qui ont mis des commentaires, par exemple. Il y a quelqu'un qui a juste mis le commentaire « super mid ». That's it. Rien d'autre. Et il y en a un autre qui a mis un commentaire « c'est pas un café de spécialité. Il n'y a pas de dessin dans mon lait ». À un moment donné, ce genre de commentaire-là a été souligné par d'autres utilisateurs de la plateforme en disant, ben voyons donc, t'as 5 étoiles de 400 plus gens, mais t'as ces 2 personnes-là. Fait que là, quand tu fais un petit peu de recherche sur ces personnes-là, puis tu vas voir, puis c'est un cuisinier dans un établissement dont je ne parle pas parce qu'il n'y a pas des éthiques en lien avec les miennes. C'est là que tu te rends compte que, tu sais, je veux dire, c'est sournois le monde de l'alimentation. Puis c'est comme c'est un monde de passionnés, les gens prennent tout personnel.
Fait que c'est émotif, là, oui, la cuisine, on s'entend, c'est du cœur, c'est des goûts personnels.
Absolument. Puis tout est relatif. Il n'y a pas une réponse, il y a des conversations. Donc, à un moment donné, si les gens n'écoutent pas les rétroactions, si les chefs, les cuisiniers, les sommeliers, les serveurs n'écoutent pas ces rétroactions-là, comment peuvent-ils s'améliorer? Donc, c'est toujours mieux de parler avec eux que d'aller sur les réseaux sociaux puis de faire des commentaires qui sont motivés par, justement, l'émotion.
Mais ça peut être assez complexe quand on est un chef, quand même, essayer de plaire à plus de monde possible. T'sais, des fois, chez nous, la fin de semaine, je cuisine pour mes gars. Les deux ont la même mère, même éducation, même chambre, même amour. Les deux manquent... Ben, s'ils manquent de quelque chose, ils manquent de la même affaire. Fait que, techniquement, ils devraient être pareils. Ils mangent la même nourriture. Il y en a un qui aime ça, l'autre, il n'aime pas. Pourtant, c'est mes enfants à moi. Moi, j'en mange. Ben, c'est correct, mais il y en a un qui n'aime pas ça. Toi, qui as un palais quand même assez développé, tu prends-tu en considération que ton palais est très développé comparativement peut-être à d'autres personnes?
Bien, humblement, oui. Mais j'ai encore une fois, tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Tu sais, Yannick, je vais te le dire, bien honnêtement, plus j'en sais, moins j'en sais. Plus
ça fait peur.
Mais c'est ça la réalité, ouais. Tu sais, je me dis, Colin, Moi, quand je te donne un exemple par rapport à ça. À un moment donné dans ma carrière, j'ai décidé que j'allais manger dans les grands étoilés Michelin, justement pour mesurer mon palais. Je me suis dit, comment est-ce que moi, en tant que personne qui raconte des histoires en lien avec l'alimentation, je peux avoir une relation respectueuse avec les gens dont je parle de leur cuisine? Comment est-ce qu'eux vont me trouver crédible dans ce que je fais? Bien, je suis allée... La première expérience que j'ai faite, je suis allée au Noma, au Danemark, Copenhague. À ce moment-là, c'est un des meilleurs restaurants au monde. Je pense le deuxième meilleur restaurant au monde. C'est à Copenhague, donc on est dans une cuisine nordique. À ce moment-là, on parle beaucoup du chef René Redzepi comme étant une influence majeure sur la cuisine québécoise en raison de cette ressemblance avec notre terroir à nous, notre territoire, c'est-à-dire des herbes, des aromates, des racines, un climat qui se ressemble beaucoup, des baies, tu sais, une ressemblance. Et donc, je me dis, bien, je vais commencer par là parce que c'est la haute gastronomie dans un contexte où on se réapproprie les savoirs, les cultures et tout. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire, mais j'ai été capable de questionner certains plats, mais je les ai questionnés juste pour moi. Je les ai fait juste pour moi parce que j'ai fait, à quel point c'était nécessaire ça? Puis j'ai juste utilisé comme un outil d'apprentissage pour être capable justement de mesurer moi, ma bouche, mon outil de travail, ma bouche, mon nez, le son, le toucher. Parce que c'est pas juste la bouche, hein. C'est pas juste les papilles qui parlent dans une expérience culinaire. C'est beaucoup l'odorat et le son. Le son influence directement l'expérience que tu vas avoir aussi. Est-ce que j'ai envie d'intellectualiser tout ça super longtemps? Non, mais je suis passée par ce processus-là pour être capable de, moi, me comprendre. Pas comprendre les autres, mais sur quelle base je pars? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour, à ce moment-là, enlever le syndrome de l'imposteur et me donner confiance en moi? Fait que ça a toujours été des petits questionnements comme ça, mais avec le temps, je me suis rendu compte que, hey, OK, là, je suis en avant de la gang, là, humblement, là. Qui, tu sais, je veux dire, OK.
Mais justement, tu as vécu des expériences, Alison, tu sais, différentes, juste aller manger dans un 3 étoiles Michelin. C'est pas tout le monde qui réussit à y aller. Un, c'est très complexe, c'est difficile.
Hey, c'est cher.
C'est très cher.
Ça m'a coûté 1 000 $ ce repas-là.
Oui, oui, oui.
Je me souviens du montant, mais ça a changé ma vie aussi.
Puis ça fait découvrir des choses. Il y en a des gens qui vont pouvoir nous questionner sur pourquoi est-ce qu'on a essayé ça, des 3 étoiles Michelin, toi et moi. Puis moi, je suis pas du tout dans ta position, mais c'est une passion. Il y a des gens qui ne comprennent pas de payer des prix faramineux pour manger 3 grains dans une assiette. Pourquoi, quand tu peux manger d'autres choses, en avoir en quantité avec l'inflation, le prix de l'épicerie actuellement, tu répondrais quoi à ces gens-là qui n'en ont aucun intérêt? Ouais. Puis au-delà de l'intérêt, qui en ont peut-être du dégoût total de cette pratique-là?
Ouais. Bien, s'ils en ont un dégoût total, je veux dire, c'est pas pour toi, là. Concentre-toi sur ce que t'aimes, là. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas forcer quelqu'un à aimer ce qu'il aime pas.
Y a-t-il une différence vraiment dans une gastronomie haut de gamme, là?
Bien, je veux dire, t'es prête à payer combien pour aller voir... c'est qui ton artiste préféré en vie, là?
J'en ai beaucoup.
OK. Mais genre, quelqu'un que tu serais capable de payer des centaines et des centaines de dollars pour aller voir un spectacle.
Yannick Marceau. Yannick, je paierais cher pour aller te voir, oui.
Oh ouais.
Oh ouais, c'était accessible.
Avec la lutte, là, tu te prépares avec le petit ticket.
Vous avez vu ça
là?
Aussi? Ouais. Ouais.
Ouais. T'es en train de me vouvoyer, Yannick Marceau, vraiment?
Il est intimidé, j'adore ça, c'est rare!
Ça commence à être de plus en plus gênant, ça.
John Mayer, je voulais le voir, c'est fait. Mais j'étais prêt à... J'ai payé cher.
OK. Bon, ce montant-là, pour moi, l'expérience, c'est en restaurant en étoilé Michelin. C'est exactement la même chose. Moi, je ne suis pas prête à payer super cher pour voir John Mayer. Ça t'appartient.
Freddie Mercury, s'il est encore en vie.
Oui, absolument. Okay, oui, non, mais oui, absolument.
Ça a été première réponse.
Tu parles quand même à une fille qui a travaillé dans le classic rock puis a été élevée dans cet univers-là pendant des années. Mais cela dit, c'est une question de priorité. Mm-hmm. Tu sais, pour moi, d'avoir un gros véhicule de l'année dans mon stationnement, ce n'est pas une priorité. Moi, ma priorité, c'est de m'alimenter avec des aliments traçables à tous les jours, m'assurer que les gens que j'aime autour de moi aient une énergie saine à tous les jours. Si j'ai cette discussion-là avec quelqu'un pour qui la priorité, c'est d'avoir un véhicule neuf dans son stationnement, on ne va jamais finir par se comprendre. On a des valeurs différentes. Fait que moi, mon travail dans la vie, c'est de démontrer, de démocratiser à quel point il y a plus de plaisir dans les aliments traçables. Oui, la haute gastronomie, c'est l'épitome of traceability. Il n'y a rien de plus traçable que ça. Eux autres, là, ils vont aller chercher les petites affaires les plus nichées qu'il n'y a pas au monde. C'est clair qu'il n'y a personne qui a le moyen de mettre ça dans son assiette à tous les jours. Je n'aurai jamais le moyen de faire ça. Mais c'est le fun d'aller voir l'extrême pour comprendre, OK, bien, comment est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis capable de découvrir des nouvelles saveurs puis réduire la facture de mon épicerie en mangeant moins, mais en mangeant mieux puis en ayant tout autant de plaisir. C'est ça, là. Mm-hmm. Le triangle, là, c'est exactement ça. Manger moins, manger mieux avec encore plus de plaisir. Oui, ça existe puis ça coûte vraiment moins cher.
Qu'est-ce qui dicte le prix de l'assiette? Bon, tu nous as mentionné tout à l'heure que le repas que tu avais pris dans ce restaurant-là avec 3 étoiles Michelin,
ouais,
c'était
meilleur au monde,
autour de 1000 $. Est-ce que c'est la notoriété du chef, la qualité des produits qui sont dans ton assiette, le goût, l'ambiance, la grosseur de la bâtisse?
C'est tout. C'est tout ça. C'est absolument tout ça. C'est des brigades de cinquantaines, voire des centaines d'employés. Une grande majorité sont là en stage aussi. Cela dit, il y a un grand débat actuellement, puis René Redzepi a été le premier à le dire. Bien, peut-être pas le premier, mais il l'a dit assez ouvertement. La haute gastronomie n'a plus vraiment sa raison d'être. Il y a trop d'exploitation humaine derrière ça. Puis quand je parle d'exploitation humaine, c'est en lien justement avec les stages. D'offrir des stages dans des grands établissements comme ça, non rémunérés en passant, c'est questionnable. C'est travailler à faire une seule tâche. J'ai d'ailleurs le dernier article que j'ai écrit pour Mordu sur la plateforme Alimentation de Radio-Canada traite de ce sujet-là exactement. Il y a des Québécois qui, pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, ont voulu aller travailler dans les restaurants scandinaves, particulièrement à Copenhague, Relay, Noma, il y en a plusieurs autres, pour comprendre quel est l'impact de cette cuisine-là, comment est-ce que moi je peux en apprendre le plus possible dans le but de ramener ces connaissances-là au Québec,
pour s'ouvrir
au Canada.
Après, moi, j'ai un de mes bons amis qui est parti à l'international après la pandémie. Il travaille dans de super bons restos ici à Québec. Je pense que tu sais de qui je parle en plus. Puis, Il est parti justement faire un stage de 10 semaines. Il a juste pilé son argent pour pouvoir y aller. Après, c'est des 16 heures par jour. Puis, quand on parle de tâches répétitives, c'est... Quand tu es attitré à un poste, tu fais la même chose pendant ton 16 heures. Là.
J'en trouve juste des 8.
Ouais. Ça se peut que ce soit ça. Ta tâche dans un 3 étoiles Michelin. Mm. Mais c'est parce que tu as été formé pour être le meilleur qui va ouvrir les huîtres le plus rapidement et le plus finement possible. Fait qu'on te laisse là. Mais ça va être en fait le bagage que tu vas avoir autour de toi. Puis ce qui est fascinant aussi, c'est des saisons radio. Fait que des saisons alimentaires.
Ouais.
Ils sont renouvelés aux 6 mois.
Oui. Et il y en a qui vont choisir l'établissement en fonction de la tâche potentielle. Il y a des plats qui sont des plats signatures de certains chefs, puis il y a des cuisiniers qui vont se déplacer, aller travailler dans les établissements dans le but d'apprendre ces techniques-là. Fait qu'il y a un avantage à tout ça. Mais tout ça pour dire que ça ne peut pas être la façon dont on parle de l'alimentation. Puis tu sais, dans un contexte où Michelin s'en vient au Québec, dans un contexte où c'est tellement controversé en ce moment de parler d'autres haute gastronomie, d'investir 2,3 millions de $ alors que la majorité des gens de la misère a mangé à leur faim, moi, ça me tue. Ça me tue complètement. Mais faut en parler parce que c'est une réalité qui nous happe tous à tous les jours. On mange, encore une fois, 3 fois par jour minimum, plus si on est des athlètes, moins si on a des problèmes de santé. Fait que la traçabilité, la relation directe avec des producteurs, c'est toujours ce qui va garantir la plus belle expérience possible. Et quand je parle de la plus belle expérience possible, c'est la plus savoureuse, la plus nutritive et celle qui va apporter le plus de plaisir dans l'assiette. Mais on est dans une société qui veut tout facilement à moindre coût. Ben, eat your shit. Je suis désolée, mais c'est ça la réalité.
C'est bien dit, c'est bien résumé.
Mais c'est ça.
Est-ce qu'il y a encore de l'innovation culinaire? Alison, est-ce que quand tu te promènes, tu te dis-tu, tabarouette, OK, ça, c'est de l'innovation. Ça existe ça encore? Il reste-tu encore des choses
absolument
à inventer?
La cuisine moléculaire en 2000. Hein? Ça, là.
La cuisine moléculaire. Non. Ça, c'est pour moi, c'est pas de l'innovation, c'est de l'art. Énormément.
Ah oui?
Ah, absolument. Puis plus on avance, plus il y a de l'innovation qui est inspirée par le passé. J'ai eu la chance d'aller au World's 50 Best Restaurants à Las Vegas en début d'été, fin printemps, et j'ai rencontré un des meilleurs chefs au monde là-bas qui a le restaurant central, Virgilio Martinez, un chef péruvien, et il dit « L'avenir de l'alimentation, c'est dans nos racines, dans notre patrimoine, dans nos produits, issus de notre terroir, transformés selon notre savoir-faire, notre patrimoine. » Hey, j'étais happée par un 2x4 parce que finalement, tout ce que je fais depuis les 20 dernières années, c'est exactement ce que ma grand-mère faisait. Et c'est ça l'avenir de l'alimentation. Et c'est là l'innovation. Puis ça paraît niaiseux, mais innover, c'est aussi regarder vers le passé. Et ça, on va en entendre encore plus parler dans les prochaines années. Innover de par la technologie. Dans les dernières années, j'ai eu ça fait 3 ans maintenant que j'anime la politique bioalimentaire pour le gouvernement du Québec. La rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du gouvernement, ce sont les gens qui sont tant dans la distribution, dans la transformation, dans la production d'alimentation. Et moi, je leur ai proposé qu'on devrait mettre en lumière ces initiatives-là, ces innovations-là, dans le but que les mangeurs puissent comprendre « Hey, qu'est-ce qui se passe dans le champ, là? » C'est bien le fun de regarder une famille à la campagne à TVA, mais c'est pas la réalité, tu sais. Ce n'est vraiment pas de la réalité, c'est la TV. Fait que je suis allée sur le terrain et j'ai témoigné des choses hallucinantes. OK, je peux-tu raconter juste rapidement?
Oui,
à Napierville, une ferme d'Elfland. Ce sont des Hollandais. C'est mon héritage quand même. J'ai vu ça. J'étais comme, mon Dieu, wow! Les Hollandais sont reconnus sur la planète comme étant des fermiers extraordinaires. D'ailleurs, c'est ça mon origine. Mon grand-père, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est venu produire des patates ici. Mon arrière-grand-père, en passant, venu produire des patates dans le nord de l'Ontario. Bref, eux sont des maraîchers d'exception. Dans le but d'améliorer la production, réduire l'utilisation de pesticides, font appel à un robot muni d'intelligence artificielle. Donc, c'est littéralement un tracteur qui s'en va sur le terrain. Il y a comme 2 ailes sur le côté qui se déploient. Et là, il y a des faisceaux lumineux qui permettent de détecter ce qu'il y a sur le sol. Est-ce que c'est une plante ou est-ce que c'est une mauvaise herbe? Imagine, là. Et là, il va arroser seulement le pesticide sur la mauvaise herbe ou l'eau seulement sur le plant. C'est une réduction de 95 % de pesticides. Imagine! Ça, pour moi, c'est l'innovation. C'est une augmentation d'un rendement. Là, je n'ai plus les chiffres, mais c'est immense. C'est une entreprise qui produit au printemps 5 000 têtes de laitue par semaine. C'est immense. Fait qu'imaginez si on n'innove pas puis on ne met pas la technologie à la disposition des entreprises comme ça. On va juste continuer à se mal nourrir avec des aliments pleins de pesticides.
C'est drôle parce que tu dis qu'il faut revenir en arrière. Puis Annick, ce qui l'a fasciné, on parlait un peu avant de t'accueillir. Puis j'ai dit, c'est fou, quand tu recules de 10, 15 ans, 20 ans, le tartare, les gens ne voulaient pas manger parce que c'était cru, on n'avait pas de sushis. Puis pourtant, il y a eu un échange culturel extrême, le voyage par la nourriture. On revient un peu à nos racines, on tente de mieux explorer ce que nous, on est capable de produire. On veut sauver des fruits et légumes que l'on connaît, qui se sont perdus dans une production un petit peu plus diversifiée. Mais c'est vrai que ça a changé beaucoup à travers le temps. Les rouleaux californiens de sushi dans le temps, il n'y avait rien de japonais là-dedans. Là. Tu vois quoi dans cette nouveauté-là qu'on a eue à travers les dernières années? Les gens se sont habitués, ils vont vouloir reculer?
Les gens y ont goûté, point. Les gens y ont goûté. Ils ont voyagé, ils ont goûté, ils ont voulu avoir accès à ça à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du plaisir. Aussi simple que ça. La seule et unique raison pour laquelle on a tant de sushis sur le marché, de un, c'est super sucré, puis on le sait, là, les Québécois, on aime le sucre en général. Fait que n'importe quoi qui est créé avec des tartares puis il y a plein de sucre dedans, ça pogne. Mais c'est ça la réalité. En ce moment, ça pogne les tartares parce que ce qu'on vous vend dans les restaurants puis ce qui est transformé, c'est bourré de sucre.
Ah oui, OK.
Ben non, mais vous n'avez pas idée, là. T'sais, pensez à toutes les mayonnaises, les sauces qui sont mises là-dedans, Yannick, là, je te jure. Si tu prenais un outil pour évaluer ce qu'il y a dans ton assiette, tu vas voir que peut-être 75 % de sucre, 25 % de poisson.
Ça explique peut-être mes petites poignées d'avant. Parce que j'ai vécu ça, moi, le début du tartare, puis les gens étaient tellement pas habitués à ce produit-là qu'on nous disait, ouais. Je vais te prendre un tartare, serait-il possible de l'avoir médium? Pardon? Hein? Tartare médium,
ça,
OK.
C'est drôle.
Ben oui, il y avait ça au début, les gens connaissaient pas ça. OK, bon, donc il y a encore des innovations culinaires.
Oui.
Hey, j'ai une question à te poser, OK? Là, tu vas t'apercevoir que je connais pas grand-chose à ton merveilleux monde.
Il n'y a pas de mauvaise question,
Madame l'épicurieuse, Alison Van Rassel. Mais est-ce que... tu sais, moi, tantôt, je t'ai parlé de la nourriture indienne. Mm-hmm. Ça me fait triper, la nourriture indienne. La nourriture mexicaine aussi, tu sais, t'es capable de le définir. Là. Tu manges du mexicain, tu sais que c'est du mexicain. Tu manges de l'indien, tu sais que c'est de l'indien. La nourriture québécoise, tu la détermines comment?
De par les ingrédients qui sont utilisés.
Mais juste parce que c'est du terroir, c'est tout simplement ça?
Bien, comment est-ce que tu peux définir une cuisine mexicaine comme étant une cuisine mexicaine? Je te repose la question. Juste, on jase de même.
Les épices.
C'est ça. C'est les épices.
Mais donc, nous, on se fait le pâté chinois, le ragoût, le ci, le ça.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je pose la question.
Je sais, ouais. C'est pour ça que je t'aide.
Merci de traduire.
Ça, en fait, ça, ce sont...
On se connaît bien.
Mais ce sont des mets issus de notre héritage culinaire. Ce sont des mets associés à des moments de célébration bien typiques. Évidemment que ça fait partie de notre culture. Évidemment que ça fait partie de notre patrimoine, mais... Dans le day-to-day, là, tous les jours, on ne mange pas du pâté chinois, puis on ne mange pas de la poutine. Puis on n'est pas de la poutine au Québec. Je suis désolée, là. Là, il va falloir arrêter de... Puis, tu sais...
Je t'adore.
Sincèrement, il n'y a rien que je trouve plus insultant qu'on identifie la poutine comme étant la nourriture québécoise. Puis pour revenir au côté positif de l'arrivée de Michelin, c'est ce que ça va mettre en lumière. Autre chose à l'extérieur du Québec comme étant notre identité dans l'assiette. On va parler de Mélilo, on va parler de thé du Labrador, on va parler d'Aquilé millefeuille, on va parler d'argousier. Mais l'argousier, ça vient de la Sibérie. Ouais. C'est pas quelque chose qui pousse ici naturellement. Quoique, on se l'est approprié. Pareil comme on s'approprie la Camerise. Pareil comme on s'approprie le poisson fumé de nos Premières Nations aussi. Pareil comme on s'approprie la bannique. En ce moment, il y a des chefs blancs avec aucune racine autochtone qui vont cuisiner de la bannique dans des grands concours culinaires.
C'est bien ou c'est mauvais, ça, vu l'appropriation culturelle?
C'est correct si tu demandes la permission.
Mais j'ai déjà fait du Mexicain chez nous. J'espère que ça insultera pas personne.
T'as pas demandé la permission.
Non, mais il faut mettre les choses en perspective. Faites pas des grands concours à la maison pour aller représenter le Canada dans votre cuisine.
Ben, mes gars me donneraient pas grand-chance.
Non, mais vous comprenez, c'est une question, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une relation de respect.
Ouais.
Tu sais, je veux pas rentrer dans la politique de tout ça, mais il faut quand même en venir à l'évidence que c'est un génocide ce qui est arrivé, là. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de vivre des ateliers qui m'ont permis de comprendre les sentiments, les émotions que nos premiers peuples ont vécu. Et quand tu comprends ça, tu développes de l'empathie. Il y a rien de plus absent dans notre société que l'empathie. Fait qu'à partir du moment où on a de l'empathie, on comprend la réalité des gens, il y a un respect qui se développe, puis je pense qu'il y a moins de gaspillage qui se fait par la suite. Tu sais, j'en fais un lien avec l'alimentation, c'est ça. Ce qu'on est dans l'assiette, c'est ce qu'on met en valeur. Ce qu'on met en valeur, ce sont nos aliments ici. Donc, par exemple, j'ai parlé de ces herbes-là, des racines aussi en même temps. Est-ce qu'on peut parler des poissons et fruits de mer? La majorité de nos poissons et fruits de mer quittent nos eaux pour s'en aller en Asie. La grande culture du sushi s'est démocratisée sur la map monde grâce à nos poissons et fruits de mer. À l'origine, les sushis californiens qui sont arrivés ici, si on remonte l'échelle pour retourner à l'origine même, ce sont des poissons qui viennent en partie de nos eaux. Nos oursins, nos homards, notre crabe, notre thon, ça sort la crevette.
La crevette de Matane qui est de Sept-Îles, ça, ouais, je la comprends.
C'est transformé à Matane, c'est pêché à Sept-Îles.
Non, t'es-tu tanné de nous, Yannick?
Non, j'aime ça parce que j'apprends plein de choses. Puis c'est vrai qu'on voit pas ça comme ça. T'sais. Bon, les produits qui se ramassent en Asie, il y a des produits qui sont pêchés chez nous.
Qui sont extraordinaires. Ben ouais. Pourquoi vous pensez que les Asiatiques les veulent?
Ben oui, c'est ça.
Parce qu'ils sont extraordinaires en bouche.
Donc, tu as raison de te sentir un peu insulté quand on dit, quand les Français disent « Ah, ben la nourriture québécoise, c'est la poutine! » Il y a plus que ça.
Mais t'aimes ça, la poutine?
Mais oui, hey, attends, là, j'adore la poutine. Mais pour moi, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas juste ça.
Exact.
Ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est pas ça. C'est pas juste ça. Donc, si on peut commencer à explorer davantage... T'sais, on va parler du sébaste. Le sébaste est en train de la manger, notre crevette nordique. On n'en aura plus. Le réchauffement des eaux fait en sorte que la crevette descend plus bas. Bien, qu'est-ce qu'il y a en bas? Un nouveau prédateur, le sébaste. Le sébaste mange la crevette. C'est aussi simple que ça. Donc, si on ne mange pas le sébaste, bien, il va arriver ce qui se passe avec le phoque. Le phoque qui mange tout notre poisson en ce moment. Fait que, tu sais, la biodiversité, si on laisse les autres s'en charger, à un moment donné, on va la perdre puis on ne pourra plus nous-mêmes se nourrir.
Les terres aussi, puis je sais qu'on pourrait embarquer dans un débat politique.
Oui, puis c'est pas mon but d'être ici avec vous non plus, là.
Mais j'ai une certaine inquiétude parce que par la difficulté d'être agriculteur, agricultrice en 2024, tout le contexte des subventions, des pertes, des difficultés, il y a des terres qui sont vendues. parce que c'est trop. C'est beaucoup, la santé mentale de bien des gens croule. Est-ce que ça t'inquiète, toi?
Ça m'inquiète, mais je vais me permettre de parler d'un jeune couple qui vient d'acheter une ferme sur la Côte-Nord, qui vient de construire le tout premier abattoir de proximité à Pointe-aux-Outardes, qui permet aux gens de la Côte-Nord d'avoir accès à une viande qui est non seulement élevée, mais abattue sur place. Ils ne sont plus obligés de faire la route jusqu'à Québec pour abattre la viande puis la ramener. Donc, grâce à ce projet pilote du gouvernement qui permet de donner une subvention pour construire cet abattoir de proximité, permettre à des jeunes qui ont quitté les Laurentides dans le but de s'installer sur la Côte-Nord, parce que sur la Côte-Nord, les terres sont encore ultra accessibles. C'est pas connu pour l'agriculture, la Côte-Nord. C'est connu pour la chicoutée, c'est connu pour le crabe, c'est connu pour le homard, mais c'est pas connu pour l'agriculture, le poulet, tout ça. Et pourtant, c'est un terroir qui est tout aussi riche, et un territoire, en passant, tout aussi riche que n'importe quelle autre région du Québec. Donc, moi, je préfère de loin parler de ces belles initiatives positives-là. Moi, j'ai toujours fait un choix dans ma carrière de mettre de l'avant le positif. On entend des mauvaises nouvelles à longueur de journée. C'est ça, la réalité. On travaille dans un monde de communication. On la comprend, cette réalité-là. C'est tough. Donc, moi, je me dis, on mange 3 fois par jour. Je veux parler aux gens. Je veux leur démontrer à quel point il y a du plaisir dans la proximité. Il y a du plaisir dans les relations humaines. Et il y a du plaisir dans les aliments d'ici. Tous les grands chefs de la planète le disent. Tous les nutritionnistes en parlent de façon intellectuelle sur toutes les plateformes qui existent. On peut-tu juste avoir du fun dans l'assiette? On peut-tu juste aller sur TikTok puis scroller puis regarder des vidéos puis créer un lien avec une fille qui se bourre la face de toutes sortes de choses qui proviennent des artisans du coin, des burgers qui goûtent terriblement bon? Pourquoi? Parce que c'est fait par des humains ici. Ça vient pas de milliers de kilomètres. Puis si ça vient des milliers de kilomètres, j'espère que c'est traçable. Fait que, on peut-tu juste parler de bouffe avec d'un point de vue positif, puis de se dire, plus on va continuer à avoir un regard positif sur l'alimentation, plus les jeunes vont vouloir se lancer là-dedans, plus on va avoir une relève et plus les terres vont devenir abordables. Je prends un vraiment grand chemin pour répondre à ta question, Pascal, mais c'est ça la réalité. Puis j'ai les deux pieds dedans depuis les 20 dernières années, puis je te le garantis que c'est ça qui va arriver. Plus on va parler d'agriculture de façon positive, puis plus on va démocratiser la traçabilité en alimentation, plus on va avoir un avenir qui goûte bon. C'est aussi simple que ça.
Oui. Et pour ce qui est du couple sur la Côte-Nord, tu leur as offert une belle visibilité sur ton site web Épicurieuse.
Oui.
Alison, est-ce que tu me permets de faire une courte pause?
Absolument.
Parfait. On prend 2 minutes de pause, puis on vient tout de suite après. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir, parce que Pascal m'accompagne pour une des premières fois. Je ne sais pas pourquoi qu'elle m'accompagne ce soir et de voir un invité important. Je pensais que c'était pour moi au départ, mais là, finalement, elle ne me regarde pas pantoute pendant l'entrevue. Elle est passionnée par
elle
Alison.
Elle veut mes courbes.
Donc, on a le plaisir. Ouais, je ne m'embarquerai pas là-dedans, parce que je vais me le faire reprocher, hein, Pascal.
Oui.
Donc, ce soir, on a le plaisir d'être avec Alison Van Rassel, qui est épicurieuse. Puis, épicurieuse, ben, c'est ton site web?
Oui, ou salutlesgourmands.com. AlisonVanRassel.com. Choisis ton
site. Ben
oui,
puis en plus, là, j'ai été voir sur ton TikTok. Puis là, depuis que j'ai été voir sur ton TikTok, là, je te vois tout le temps passer. Puis là, je vois tout le temps de la nourriture passer parce que l'algorithme fait son travail.
Je te jure, ça va travailler. Oui,
j'ai faim.
Tu vas devenir tana.
Welcome to my life.
Courte pause, on vient. Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin. Boulevard 102. J'ai un petit breaking news.
Oh oui.
Oh oui.
T'as le montant.
Ouais.
La taxe.
Ouais, quelqu'un bien placé.
Moi, je pense que t'avais raison. On va y aller avec un 60.
60 pièces. Ça va être ça qui va être annoncé 11h. 60 $.
Qu'est-ce qu'on pense du 60 $ si on compare? On parlait de Gatineau, on parlait de
C'est
Montréal.
C'est beaucoup trop. Parce que le maire Marchand va revenir sur sa promesse de ne pas éponger le déficit du RTC avec ça, puis va éponger une partie du déficit du RTC avec le 60 $.
Merci, Jeff, pour le breaking news.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1. Ah, ce fameux entre-deux. Le moment où on se sent en vacances, mais qu'il faut retourner au boulot. Où on porte encore nos kits d'été avec un chandail chaud. Profitez de cet entre-deux. Offrez-vous un nouveau look avec Place de la Cité et Boulevard 102.1 qui ajoute un petit plus à votre magasinage. Soyez à l'écoute de Gravel dans le retour et allez inscrire l'indice du jour au blvd.fm. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 200 $ à Place de la Cité, partenaire de votre retour au boulot.
Boulevard 102.1.
Dans la vie, on ne peut pas faire confiance à certaines choses, comme à un enfant qui apprend à jouer au baseball. Ouh! Mais chose certaine, on peut faire confiance à Toyota. Quand on cherche un véhicule électrique, c'est rassurant de pouvoir se tourner vers le BZ4X de Toyota. Un VUS 100% électrique à la conduite exaltante et au design novateur. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'un incitatif du manufacturier de 3 500 $ sur le BZ4X 2024, en plus des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $. Réservez un essai routier dès aujourd'hui sur achetezmatoyota.ca ou chez votre concessionnaire Toyota du Québec.
Salut gang, c'est moi, Bob le chef. J'ai eu tellement de fun cet été avec mes chums de Normandin que j'ai décidé de répéter l'expérience pour l'automne. 6 nouveaux plats signés Bob le chef. Burger Bazooka, Pizza Smash Burger, Pizza Poulet Bob, Poutine Pepper, Bene Tex-Mex et le Bene Bœuf. Il y a de quoi s'éclater. Sans oublier le retour du Smash Bob ainsi que le fameux pâté à l'oie normandin. Je vous le dis, du fun dans l'assiette, il va en avoir tout l'automne. Normandin, ça fait plaisir!
Le vendredi 13 septembre prochain, Québec accueille le Grand Prix cycliste. Vous circulez près du parcours où vous voulez encourager les athlètes? Prévoyez vos déplacements. Consultez leville.quebec.qc.ca/Grand Prix cycliste pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
Il était une fois des habitants heureux de vivre dans une magnifique ville, et ce depuis des lustres. Pour le meilleur, parce que le pire n'était encore jamais arrivé.
C'est toujours un conte de fées. Pour le moment, il fait réellement bon vivre à Québec. Une ville où se déroulent les plus belles histoires. Les Cols Bleus de Québec sont encore fidèles au poste pour assurer l'entretien de notre belle ville. Et on veut que ça dure. Ce message est payé par le SCFP.
Porte et fenêtre Québec, le détaillant spécialisé Fenplast depuis 35 ans. Fenplast est chef de file dans l'industrie des portes et fenêtres au Québec et fabricant numéro 1 selon le magazine Protégez-vous en 2024. Pour un temps limité, Fenplast offre un rabais de 12% sur ses produits. Subvention Rénoclimat et prêt sans intérêt de 40 000 $ sur 10 ans. Financement sur place. Faites vite, nos dates d'installation s'envolent rapidement. Passez chez Porte et fenêtre Québec, les experts recommandés par CAA Habitation. 3 boutiques dans la grande région de Québec pour mieux vous servir, à Lévis, à Beauport, et à Québec, rue Marais, voisin du métro Ferland.
C'est la méga promo Ilo! Profitez d'un rabais de 50% sur tout!
Qu'est-ce que t'as là?
Un mégaphone pour la méga promo?
C'est pas nécessaire. Un rabais de 50%, ça résonne assez.
Faites vite, la méga promo Hilo prend fin le 15 septembre. Certaines conditions s'appliquent.
C'est l'heure de retourner en classe. En septembre, pour fêter leur 15e anniversaire, les boutiques au 7e ciel vous offrent 50% de rabais sur les jupes écolières. Au 7e ciel, 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon ou au7e-ciel.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable. C'est l'Atelier. Savourez un repas entre amis ou réservez pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'Atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière fin de semaine au camping, racler le terrain, vider la piscine, préparer la headset pour l'hiver, monter l'abri, magasiner l'équipement de hockey pour mon gars, prendre des cours de conduite pour ma fille, faire un tour au Saguenay, faire le ménage en cabanon, aller au port.
Vous êtes débordé cet automne. Laissez nos experts s'occuper de votre changement de pneus d'hiver. Planifiez votre rendez-vous en ligne avec les conseils. Concessionnaire service certifié Chevrolet Buick GMC Cadillac avant le 30 septembre et obtenez sans frais 3 mois d'accès au plan véhicule connecté d'OnStar ou de Sirius XM. Profitez de l'offre en prenant rendez-vous en ligne au monservicecertifié.ca.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock?
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Alison Van Rassel, qui est à Tépicurieuse. On a parlé de plusieurs choses, Alison. Merci d'être là avec nous ce soir. On a du temps pour jaser, hey, c'est une
merci, fun. Merci, sérieux, c'est tellement rare. J'apprécie. Merci, Yannick. Merci, Pascal. Vraiment, sincèrement.
Tu te promènes d'endroit en endroit dans le monde. Tu t'en vas dans divers restaurants. Tu vas rencontrer des agriculteurs et tout ça. Est-ce que tu apprécies l'alcool au travers de toute cette belle nourriture-là, les agencements? T'es-tu ce type-là en disant « Ah, ben avec telle pièce de viande, moi, j'aurais besoin de tel vin. »
Les accords, Yannick?
Oui, les accords, mais vin. Ouais. Ou alcool et vin?
Ou alcool et alcool.
Parce que j'ai vu qu'elle avait... J'ai vu qu'elle avait mis un article super intéressant sur un produit qui est... Ben, tu peux le boire, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Mm-hmm. C'est un gars de Québec qui a fait ce produit-là, de mémoire.
Oui.
C'est un gars qui a travaillé à l'hôtelier pendant des années.
Tu veux le nommer, Patrice Plante?
Exact.
Monsieur Cocktail.
Monsieur Cocktail. T'es-tu très à l'affût de ça aussi? C'est pas juste la nourriture?
Je suis très à l'affût parce que j'ai plus de plaisir à boire des produits non alcoolisés que j'en ai à boire des produits alcoolisés. Puis ça, je sais que c'est très controversé de dire ça. Mon repas chez Noma, je l'ai fait en accord avec des produits sans alcool.
Et moi, je bois des produits alcoolisés, mais quand je dis que c'est de la Coors Light, ils me disent tout, non, ça, c'est de l'eau, ça. C'est fait.
Vois-tu, moi,
on est pareil.
Aller chez Noma puis prendre un accord mais vin avec des produits non alcoolisés, je pourrais pas.
Ah non?
Parce que j'ai vécu mes plus belles sensations alimentaires et gourmandes.
On les salue.
Dans certains accords. Non, mais
absolument.
Quelque chose qui est sincère,
ouais.
Là,
ouais.
À donner certains frissons, Yannick.
Absolument, à pleurer aussi, à rire d'euphorie.
Oui.
Tu sais, je veux dire, quand tu veux vraiment te laisser aller et vivre l'expérience à son apogée, quand tu n'es pas là pour jaser avec les gens autour de la table, mais mettons que tu partages ça en couple, entre amis, puis il y a le désir sincère de vivre l'expérience, comme à la Tanière, par exemple, comme au Laurie Raphaël, ou tu sais, c'est sûr que je parle de grands établissements, mais on pourrait parler de la Buvette Scott, on pourrait parler de chez Sardine, on pourrait parler du Melba, de Batuto. Quand tu es là puis que tu t'adonnes à l'expérience pour ce qu'elle devrait être, tu peux vivre des émotions très fortes. Puis je suis 100% d'accord avec ce que Pascal dit. Oui, j'en ai vécu des grands frissons avec des accords alcool. Et j'en vis encore aujourd'hui. Je suis pas... Je bois de l'alcool.
Mais j'aime ça t'entendre sur l'autre côté aussi. Parce que moi, j'aurais pensé que je perdais une occasion si j'avais pris le sans-alcool au Noma.
Au contraire, t'aurais vécu... Je t'ai accompagné de 3 autres amis. Et ces personnes-là ont toutes fait les accords avec alcool. Et j'ai goûté en même temps. Je n'ai pas vécu autant de plaisir qu'avec les alcools. Dis-toi, dans ce contexte-là, un sommelier doit toujours s'adapter à ce que le chef crée. Ou comme chez Bleu Marine, par exemple, ici sur Saint-Louis, ben la cuisine va être créée en fonction du vin. C'est rare, ça. Cette offre-là, elle est très rare. Donc, et c'est du hit or miss. Parce qu'un bon vin ne va pas goûter pareil nécessairement d'une bouteille à l'autre. Dans quel contexte a-t-il été conservé? De quelle façon je l'ai ouvert? Mon verre, y avait-tu quelque chose dedans? Hey, là, on peut aller loin là-dedans. Donc, moi, je me dis, j'aime mieux m'adonner à une création qui a vraiment été faite sur mesure, où on met de l'avant la créativité, le savoir-faire de la personne qui le crée, dans le but de réellement augmenter mon expérience dans l'assiette.
Vendu. All the way.
Essaie-le, sincèrement. Oui. Essaie-le. Puis je suis allée chez Lueur dernièrement, puis encore une fois, là, je ne suis pas payée pour parler de tous ces endroits-là. C'est ma plus grande fierté, mon indépendance. Ce sont des gens, des jeunes mixologues aujourd'hui, ils ont les mocktails, hein, c'est ça, le terme précis pour des cocktails sans alcool. Ils ont le mocktail à cœur. Et tous les restaurants maintenant, puis c'était pas le cas il y a 2 ans, mais tous les restaurants maintenant, les bars, ont des cocktails sans alcool. Je collabore à une des plus grandes publications qui met de l'avant le travail des... Je suis en train de me outer, là. Je suis en train de m'outer. Ouais. Je critique, entre guillemets, je le mets entre guillemets, vous me voyez pas en ce moment, les bartenders, les mixologues, partout au Canada, et je donne mon opinion là-dessus, surtout basée sur le fait qu'ils créent des créations sans alcool. Oui. Ouais.
Donc, dans le temps, on aurait pensé de toi que tu étais le cauchemar de tous les chefs cuisiniers. Maintenant, tu es le cauchemar des bartenders.
Je le suis, mais ils ne savent pas.
Moi, j'ai eu un beau-frère pendant quelques années que j'ai adoré, qui était chef exécutif pour des grandes tables quand même au Québec. Il a fait un hôtel, en fait, restaurant, à Québec, puis il en a fait un autre dans les Laurentides. Puis là, il est allé ouvrir son propre restaurant aux Îles-de-la-Madeleine avec sa conjointe, qui est la tante de mes enfants. Et lui, ça faisait un plaisir en tant que chef exécutif d'aller dans la forêt pour aller chercher des produits qu'il allait mettre dans les assiettes. Je trouvais ça hallucinant. Il pouvait passer une journée complète à aller chercher des trucs qu'il allait donner à ses clients le soir même.
Qu'est-ce que tu questionnes là-dedans?
Je trouve ça formidable, parce que quand tu es assis et tu manges, tu ne penses pas au chef qui s'est...
Qui est allé en forêt avec ses pantalons longs pour ne pas être pris par une tique. Non, mais...
Mais c'est ces petites attentions-là qui font la différence.
Mais ça, on ne le sait pas.
C'est la magie.
Bien, en fait, on devrait le savoir.
Exact.
Puis c'est aussi le travail de la personne qui te sert cette assiette-là de te l'expliquer. Tu sais, pour moi, ça, c'est notre identité qui arrive dans l'assiette, directement. Sense of place. où suis-je sur la planète en ce moment et comment puis-je goûter cet endroit-là, cette culture-là, ce lieu-là dans lequel je me trouve. Ça passe nécessairement par les produits sauvages, indigènes, cueillis, ramassés ou qui ont poussé exclusivement pour la table ou le restaurant. Ou... Tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut trouver ces produits-là. Il faut juste que tu investisses encore, encore une fois un petit peu dans ta culture, c'est-à-dire la culture de la cueillette, puis que tu prennes tes bottes, puis tes attaches, puis ton manteau, ouais. puis tu te prennes un petit sac, puis tu y vas, puis tu le cueilles, ça ne te coûte pas une foutue scène.
Exact.
Mais tu as quelque chose de gratuit qui goûte vrai. Tu sais d'où ça vient, la traçabilité, c'est toi qui l'as fait. Je te le garantis que tu le gaspilleras.